I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Bonjour à tous et bienvenue dans Tour du Monde. Je suis Cyril Morin, journaliste à Eurosport et vous l'avez compris, Tour d'Europe s'adapte évidemment au Mondial puisque pendant toute la durée de la compétition, on se retrouvera quand le FC Stream Team n'est pas là pour parler des autres équipes que de l'équipe de France. Le Brésil, l'Argentine, l'Espagne, l'Allemagne, voilà, tous les cadors attendus dans cette Coupe du Monde mais aussi les révélations. Le programme aujourd'hui, il est évidemment très chargé après avoir vu les 32 équipes rentrer en lice dans cette compétition. On commencera avec un bilan global, Elton Mokolo, et on parlera notamment de l'importance des très jeunes joueurs dans cette Coupe du Monde. Ce sera les cracks en pagaille. On enchaînera avec l'Allemagne, on ira voir David Lortolari qui nous expliquera à quel point la Mannschaft traverse une crise d'identité et s'inquiète avant le choc face à l'Espagne. L'Espagne justement, Ana Caro viendra nous expliquer pourquoi Luis Enrique continue sa bataille médiatique et continue surtout de séduire les siens. On enchaînera ensuite avec la Belgique, très inquiétante pour son entrée en lice face au Canada, mais victorieuse malgré tout. Sacha Tavolieri nous expliquera les dessous des Diables Rouges et nous expliquera pourquoi il y a toujours autant de défenseurs âgés dans cette équipe. Et puis, évidemment, pour terminer ce Tour du Monde, on ira en Amérique latine pour parler des deux géants sud-américains. D'abord le Brésil, victorieux ce jeudi de la Serbie 2-0. On parlera un petit peu du niveau global de la Seleção. Et puis, un gros point autour de l'Argentine, battue, évidemment, c'était un des événements de la semaine, par l'Arabie Saoudite et qui attend le Mexique dans un match au coup près qui pourrait être potentiellement le dernier de Lionel Messi en Coupe du Monde. Thomas Goubin nous éclairera sur tous ces points. Voilà, vous connaissez le programme très dense de ce Tour du Monde. Alors, c'est parti. Et on va commencer ce Tour du Monde par une petite introduction avec Elton Mokolo, notre spécialiste habituellement de la Ligue 1, mais qui regarde absolument tous les matchs de cette Coupe du Monde et qui prend des notes. Voilà, t'es là, tu fais des antisèches sur tous les matchs. Première question, Elton, déjà, bienvenue dans Tour du Monde. Merci d'être là. La première question... Comment tu trouves cette Coupe du Monde jusqu'à présent, maintenant que quasiment toutes les équipes ont joué? On précise, on enregistre cet extrait avant l'entrée en lice du Portugal et du Brésil.
Bonjour Cyril, déjà très content d'être sur le Tour du Monde et pas sur le Tour d'Europe. Ça fait un peu bizarre parce qu'on est dans du beaucoup plus vaste. Maintenant, pour répondre de manière beaucoup plus précise à ta question, moi, j'ai quand même envie d'avoir un avis positif sur ce Mondial. Il y a le lot d'émotions parce qu'il ne faut pas oublier que, ok, on est attaché à la performance footballistique, mais il y a aussi la performance universelle, la Coupe du Monde, c'est grand public, et par rapport à ça on a eu quand même la victoire de l'Arabie Saoudite, la victoire du Japon, le gros carton de l'Espagne, ça c'est bien. Maintenant on est sur une Coupe du Monde qui est pour moi homogène, parce que c'était attendu, il n'y a pas de grande nation qui se détache pour l'instant, bon, même si on dira l'Espagne on a quand même mis 7, mais dans le ranking des équipes attendues pour le Mondial, c'était pas forcément l'Espagne qui était attendue. Faut pas oublier qu'on est sur une Coupe du Monde en automne, et j'insiste pas en hiver parce qu'on est encore c'est en vrai. Automne, et donc par rapport à ça, les états de forme de certains joueurs, on l'a vu en club, il y a une corrélation entre les états de forme en club et en sélection. Je vais te donner un exemple typique. Si l'Argentine a eu des difficultés, c'est aussi parce qu'il y a de nombreux joueurs qui sont en retour de blessure, et alors qu'il y a d'autres nations qui peuvent capitaliser sur des joueurs qui sont en pleine forme. Donc pour moi, ça contribue à quoi? Ça contribue à avoir une compétition qui est homogène, où il peut y avoir des surprises comme on l'a vu jusque-là.
Alors ce qu'on retient justement, c'est l'échec pour l'instant de l'Argentine et de l'Allemagne, qui sont les deux plus grosses surprises de ces premiers matchs. Fallait s'y attendre un petit peu à cet échec-là. On en reparlera plus en détail, évidemment, avec nos correspondants. Mais toi, d'un œil extérieur, est-ce que ça t'a surpris, malgré tout, de voir ces deux nations-là trébucher?
Écoute, Cyril, les Argentins, ils aiment bien parler des journalistes du lundi. C'est une expression pour dire, oui, vous l'aviez vu, vous l'aviez anticipé bien avant. Donc, moi, je ne suis pas un journaliste du lundi. En l'occurrence, on est jeudi. Donc, je n'avais pas vu la performance argentine de cette manière-là. Il ne faut pas oublier qu'il y a quand même 3 buts refusés en première période. Al-Owais, le gardien saoudien, fait un grand match. Même chose pour Allemagne-Japon. Ouais. Gonda fait un super match côté japonais. L'Allemagne tape le poteau avec Gundogan. Donc on se dit, ok, L'Allemagne est au-dessus, mais l'Allemagne a un défaut de réalisme. Et le défaut de réalisme s'est transformé en mauvaise surprise parce que le Japon a su justement faire le dos rond et mettre ces fameux deux buts qui ont fait que le Japon est passé devant et a remporté ce match. Donc je ne m'attendais sûrement pas à ces deux prestations, enfin à ces deux résultats, à ces deux résultats finaux.
Ouais. Il y a un autre grand jeu quand il y a la Coupe du Monde, c'est aussi de comparer par aire géographique, évidemment. L'Europe est dominante comme... C'était attendu. Il y a quand même les pays asiatiques qui nous surprennent, autant par leur variété tactique que par leur intensité physique. Là encore, est-ce que c'est parce qu'on ne prête pas suffisamment attention à l'évolution de ce football ou simplement qu'ils réalisent des prestations de très très haut niveau qui étaient difficiles à prévoir face à une telle adversité?
C'est une question très intéressante parce qu'on a tendance à parler de Coupe du Monde arabe parce que c'est organisé au Qatar, mais il ne faut pas oublier qu'on est en Asie. Ouais. C'est vrai qu'il n'y a pas non plus pléthore de joueurs asiatiques dans les cinq grands championnats, ou plutôt dans les gros clubs. Ouais. Évidemment, il y a Heung-min Son, il y a Kim, on l'a évoqué récemment du côté de Naples, mais ce n'est pas comme s'il y avait pléthore de joueurs. Alors que les joueurs sud-américains, les joueurs africains qui sont représentés dans les grands clubs, et ça nous permet d'avoir une connexion particulière avec ces continents. Mais c'est vrai que quand tu regardes le comportement global de ces équipes, c'est quand même satisfaisant. Après... on parle d'équipes qui peuvent capitaliser sur une certaine expérience en Coupe du Monde. Le Japon, une fois sur deux, est en huitième de finale. L'Arabie Saoudite, c'est plus le sparring partner qui en prend 8 comme en 2002 du côté de Sapporo face à l'Allemagne. Bon, on dirait qu'ils en ont pris 5 face à la Russie. Oui. Mais à côté de ça, ils avaient par exemple battu l'Égypte lors de cette même Coupe du Monde. Donc, cette forme de récurrence aide ces sélections. Enfin, la Corée, on vient de voir, a fait 0-0 contre l'Uruguay. Tout ça participe à quoi? Tout ça participe à montrer que déjà, il ne faut pas sous-estimer le continent asiatique. Et Hervé Renard l'a quand même rappelé après la victoire de l'Arabie Saoudite, parce qu'il était chafouin par rapport au fait qu'on avait été critique sur les performances d'un côté du Qatar, puis de l'Iran, alors que ces deux nations... Le Qatar a été quand même champion d'Asie en 2019. L'Iran était à un but de se qualifier lors de la Coupe du Monde 2018. Donc, on a un comportement qui est vraiment intéressant. Il y a l'aspect aussi que j'ai envie de relever, c'est l'aspect tactique. Ouais. Il y a quand même des entraîneurs qui sont expérimentés. Hervé Renard, on vient de l'évoquer. Paulo Bento du côté de la Corée du Sud. Félix Sanchez, bon, même si c'est avec beaucoup moins de réussite, il y a quand même cette école Barça qui s'est retranscrit du côté du Qatar. Donc, cet ajout tactique contribue à rendre ces équipes beaucoup plus dangereuse et surtout beaucoup plus compétitive.
Alors, Elton, on va passer à ce qui nous réunit aussi. On a une petite appétence, toi et moi, pour les cracks. Voilà, c'est ces jeunes joueurs qui arrivent, qui demandent la permission à personne et qui prennent le pouvoir et pour ne plus jamais le lâcher. Cette Coupe du Monde, c'est la bonne illustration parce qu'on a vu 4 joueurs au-dessus du lot dans leur sélection respective. On va les citer. Bellingham, exceptionnel pour l'entrée en lice de l'Angleterre. Saka, auteur d'un doublé. Gavi, qui est devenu le deuxième plus jeune buteur en Coupe du Monde depuis Monsieur Pelé, excusez du peu. Et Musiala, qui évidemment n'a pas eu le résultat escompté avec l'Allemagne, mais qui est peut-être le facteur X de cette Mannschaft. Moi, j'ai une question. On sait que Pelé donc, tient ce record du plus jeune buteur en Coupe du Monde à 17 ans et 249 jours, si je relis mes notes. Est-ce que ce record-là, finalement, quand on voit à quel point ces joueurs-là, qui sont entre 18 et 21 ans, prennent le pouvoir avec autant de personnalité, ce record-là n'est pas menacé? Alors, il va pas être battu pendant cette Coupe du Monde, mais il pourrait l'être dans les prochaines. Est-ce que c'est un record qui peut encore durer 50 ans?
Écoute, Cyril, si Luis Enrique est encore sélectionneur de l'Espagne, il pourrait appeler un jeune joueur du FC Barcelone qui a 17 ans. Alors, effectivement, ça va être un peu compliqué, mais le fait est qu'il y a une tendance qui est générale. Déjà, c'est dans l'évolution du football. On fait beaucoup plus confiance aux jeunes. Et il y a un écho sur le football de sélection. On a des joueurs qui sont davantage responsabilisés. Bellingham, il est quand même sur sa troisième saison du côté du Borussia Dortmund. Ouais. Pedri est déjà sur sa troisième saison du côté du FC Barcelone.
Avec des saisons à 60 matchs quasiment.
Exactement. Donc, on parle de joueurs responsabilisés et qui ne sont pas forcément étouffés par une pression d'un grand match. Pedri, c'était seulement son premier match de Coupe du Monde. Ouais, il agit déjà comme un leader technique. Gavi a été extraordinaire, Bellingham a été extraordinaire. Donc, on a des jeunes qui ne sont pas encore une fois rattrapés par cette pression qui pourrait les intimider. Bon, même si, je te dis ça, sur les matchs éliminatoires, ça va être autre chose. Mais toujours est-il qu'on a des joueurs qui sont dans la continuité de ce qu'ils font en club. Les matchs de Ligue des Champions sont des révélateurs et les matchs des Coupes du Monde en sont tout autant.
Comment tu expliques que, alors on le sait, tu l'as dit, en club c'est de plus en plus fréquent, en sélection le mouvement a été un peu plus lent à arriver, c'est-à-dire qu'il y a eu beaucoup de discours sur bah quand voilà, le poids d'un maillot international, c'est pas la même chose. Les jeunes, faut les intégrer petit à petit. Peut-être que ces joueurs-là, il y a allez, 5 ou 10 ans, ils auraient été dans le groupe, mais ils auraient été peut-être en fin de banc ou pour rentrer, pour dynamiter les matchs en fin de match. Comment on explique que ce discours s'applique enfin aux sélections et que finalement, ces joueurs-là soient presque les leaders, et on emploie des guillemets malgré tout, mais les leaders de ces équipes-là, alors que la Coupe du Monde réclame normalement beaucoup d'expérience.
Bah déjà, pour parler notamment de Bellingham, de Pedri, de Gavi, de Moussiala, il y a l'appétence pour la formation de trois pays. L'Angleterre a quand même lancé un vaste projet de formation avec notamment l'édification du Clairefontaine anglais en 2012, avec dans l'idée que la Coupe du Monde 2022 devait être une forme d'aboutissement de ce projet. Et force est de constater que Bellingham est l'un des symboles. Du côté de l'Espagne, on est sur un renouvellement de génération parce que la génération Thiago, Isco n'a pas répondu aux attentes. Donc forcément, Luis Enrique s'est tourné vers une génération encore plus juvénile et ça permet à Pedri, à Gavi de pouvoir en profiter. Pour l'Allemagne, on le sait, on l'a vu notamment depuis plusieurs années, on aime bien faire confiance aux jeunes. Il y a un Moussiala qui arrive avec notamment du galon du côté du Bayern. Et bien forcément, il y a une forme de continuité. Ouais. Donc par rapport à ça, je pense que l'appétence le joueur jeune, pour le joueur qui est déjà mature, j'insiste là-dessus, pour le joueur qui est déjà mature, faire en sorte que ces joueurs, ils arrivent dans un environnement qui est sain et qui leur permet d'être compétitifs.
Tu parlais de l'Angleterre qui avait mis un plan spécial. Au niveau français, comment on se situe selon toi? On sait que Kylian Mbappé a souvent agi en contre-exemple. Parfois, il est aussi symbole de ce qu'est la formation française, à savoir des joueurs individuels très forts, mais qui n'ont pas forcément une idée collective aussi développée que... Voilà, je prends l'exemple d'un Gavi qui vient d'un cadre idéologique très fort. Comment tu nous situes, toi, la formation française, là-dedans, dans ce grand mouvement-là d'évolution du football mondial?
Et finalement, c'est quand même un peu paradoxal, parce que comparé au Moussiala, au Bellingham, au Gavi, on a des joueurs qui sont un peu plus vieux.
Ouais.
Mais on parle de joueurs qui ont 21, 22, 23 ans. Il y a 10 ans, ça aurait été des joueurs relativement jeunes par rapport à ce que demande la compétition. Mais maintenant, pour répondre de manière beaucoup plus précise à ta question, on a quand même eu un renouvellement, renouvellement forcé, clairement, parce qu'il y a eu des blessures, mais le fait d'avoir quand même une charnière Konaté ou Pamecano, je vous rappelle qu'il y a un an et demi, c'était la charnière de l'équipe de France Espoir lors du quart de finale face aux Pays-Bas. Donc c'est déjà dans l'idée qu'on accompagne ce renouvellement de génération. Kamavinga, qui a quand même, il vient d'avoir 20 ans, ou il va avoir ses 20 ans, est déjà champion d'Europe avec le Real Madrid et surtout est dans le groupe de l'équipe de France. Donc du côté bleu, effectivement, on participe aussi à ce renouvellement de génération un peu moins prononcé, oui, parce qu'on a quand même une équipe qui est championne du monde. Et forcément, pour faire ce renouvellement dans le 11 de départ, bon, même si encore une fois, il y a 50% de l'équipe qui a été changée, c'est un peu plus compliqué qu'en Espagne où Luis Enrique arrive après des campagnes ratées. Et donc, il a beaucoup plus de latitude pour lancer un projet. Alors qu'avec Didier Deschamps, il y a la stabilité, il y a des cadres qui sont présents.
On va terminer avec une question toute simple. Elton, alors, on l'a dit, on n'a pas encore vu le Portugal, on n'a pas encore vu le Brésil. Si tu devais citer un favori aujourd'hui pour cette Coupe du Monde, ce serait qui? L'Espagne.
Et c'est un peu compliqué parce qu'on n'a pas vu, on n'a pas vu tout le monde. Parce que tout le monde dira sur le Brésil par rapport à l'idée que c'est une équipe qui est mature, c'est une équipe qui a perdu un match depuis le quart de finale de la Coupe du Monde 2018. Ouais. C'était malheureusement à domicile face à l'Argentine en finale de Copa América. Donc ça la fout mal, mais c'est une équipe qui arrive à maturité parce que déjà il y a des joueurs qui en club ont gagné. Et des joueurs qui ont gagné aussi en sélection. Donc, ils ne vont pas être forcément rattrapés par la pression de se dire il faut gagner à tout prix. Ils ont déjà gagné en sélection. Bon, Neymar n'a pas gagné en sélection un trophée majeur comme la Coupe du Monde et la Copa América. Il a remporté la Coupe des Confédérations en 2013. Donc, par rapport à ça, on a envie de te dire au Brésil. Il ne faut pas non plus enterrer l'Argentine parce que, effectivement, l'Argentine est quand même pointée du doigt et critiquée parce qu'elle a perdu face à l'Arabie Saoudite. Mais si on se replonge dans l'histoire, l'Argentine plutôt avait perdu en 90 face au Cameroun avant d'aller en finale. Bon, je suis sûr que les Argentins ne vont absolument pas signer pour aller en finale et perdre une nouvelle fois. Mais toujours est-il que méfions-nous du match 1. Le match 1 est très important et il ne définit pas la suite de la compétition.
Alors à l'inverse, un petit outsider, l'équipe qu'on n'a pas vu venir et qui va aller loin.
Ah, forcément, là, on est obligé de parler de l'Espagne. On est obligé de parler de l'Espagne parce qu'on a dans l'idée qu'on est sur une forme pas d'aboutissement, mais de progression dans le projet Luis Enrique. Luis Enrique est arrivé en 2018. Bon, ensuite, il s'est mis de côté pour des raisons personnelles avant de revenir. Il y a eu l'Euro 2020 qui a été pour moi un accélérateur parce que ça a permis de crédibiliser le projet. Et ça, c'est très important, crédibiliser le projet. Et là, on est sur un sélectionneur qui est dans une réflexion club. Il a pu travailler avec les profils qu'il voulait. Si tu veux, Cyril, hier, je regardais Marco Asensio, qui est lié du côté du Real Madrid, qui est utilisé en faux neuf. Bon, même si Luis Enrique déteste cette expression, parce que j'ai eu le plaisir de regarder son live Twitch, donc il faut considérer Asensio comme un avant-centre. Rodri, milieu de terrain à Manchester City, qui est défenseur central. Donc, on a dans l'idée que Luis Enrique a modelé un jeu qui permet à l'Espagne d'être compétitive avant, parce qu'il ne faut pas oublier que Luis Enrique est en fin de contrat, donc il faudra voir quelle va être la suite. Mais toujours est-il que l'Espagne a marqué de nombreux points. Mais il ne faut pas oublier que là, il y a un révélateur, c'est dimanche, face à l'Allemagne, dans ce qui va être un 32e de finale de Coupe du Monde, face à une équipe qui doit gagner impérativement, sous peine de rentrer à Berlin.
Tu m'offres les transitions parfaites, Elton, puisque c'est la promesse de Tour du Monde. On va faire le Tour du Monde, et donc on va commencer par évoquer l'Allemagne avec David Lortolari. Tour du Monde nous amène évidemment vers l'Allemagne puisque la Mannschaft a été victime d'une des grandes sensations de ses premiers matchs lors de ce mondial. Cette défaite face au Japon, on accueille David Lortolari, notre spécialiste du football allemand. David, tout simplement, c'est quoi l'état d'esprit aujourd'hui en Allemagne? Est-ce que c'est panique à bord?
Un peu. Il faut garder raison, il faut être mesuré. Il y a un mélange de sentiments depuis la fin du match hier, depuis la seconde période en fait de ce match-là. Mm-hmm. Il y a un peu de sidération, il y a un choc. Il y a aussi une énorme frustration, bien sûr, quand on voit le scénario du match, qui fait penser aussi à de l'impuissance qu'on avait connue en 2018, bien sûr, sur certains des trois matchs de la Mannschaft à la Coupe du Monde 2018. Beaucoup de frustration, surtout les anciens. Gundogan, Neuer, Müller ont tous exprimé une vraie forte frustration à l'issue de la rencontre. Ça, c'est un point. Un autre point, c'est le choc, bien sûr, parce que quand on est l'Allemagne, quand on se lance dans une Coupe du Monde, on veut aller loin, on veut servir de référence, et donc il y a une forme de choc. Et puis, y a un côté révolte que je trouve, moi, insuffisant de la part du public, de la part des joueurs aussi. On est plus concentré, j'ai presque envie de vous dire, sur les à côté du terrain, sur le brassard, sur la photo de l'avant-match. Dans la presse aussi beaucoup, on en a fait des kilomètres, plus que sur le vrai niveau de l'équipe, sur ce qu'elle a produit hier. Il y a beaucoup de critiques aussi qui sont parfois excessives, Cyril, peut-être pour certains joueurs. Et donc, on n'est pas encore du tout projeté sur une performance contre l'Espagne, c'est encore trop loin.
Ce qui nous a surpris, nous, David, au moment d'analyser ce match, c'est qu'on a entendu notamment Schweinsteiger être très offensif sur la chaîne ARD. Il a succédé à Gundogan, tu en as parlé, qui visait lui aussi un petit peu la défense. Moi, j'ai envie de renverser le prisme. Est-ce qu'aujourd'hui, les attaquants de cette Mannschaft sont ciblés? Parce que cette équipe d'Allemagne, elle avait le match en main, elle a eu énormément d'occasions pour faire le break, mais elle n'a pas été aussi tueuse qu'à l'accoutumée, et derrière, elle s'est fait surprendre. Est-ce que l'attaque de cette équipe est visée un petit peu par la presse, ou c'est encore que la défense qui est coupable, entre guillemets?
Disons que ils sont un peu préservés, les attaquants, et attaquants entre guillemets, parce qu'est-ce que Kai Havertz est un avant-centre? Est-ce que Serge Gnabry est un finisseur? Ce sont des questions. J'apporte pas de réponse définitive à cela, bien sûr, parce que Gnabry a le droit d'être plus adroit. Il l'a montré les dernières semaines. Il était pas mal du tout avec le Bayern. Kai Havertz a pu aussi parfois être décisif en pointe et en fin de chaîne dans une équipe comme son club, par exemple. Ouais. Et donc, ils sont plutôt préservés. C'est surtout le milieu de terrain. Kimmich, l'activité de Kimmich, Gundogan aussi, même s'il a marqué le penalty, qui pose question, et bien évidemment, on focalise sur la défense, on focalise sur la défense axiale notamment, on focalise sur les joueurs de Dortmund, Süle et Schlotterbeck, et il me semble que pour l'instant en tout cas, le manque d'efficacité offensive est moins pointé du doigt que les problèmes défensifs de cette équipe qui sont quand même récurrents.
Alors, tu nous parlais du choc qui se profile face à l'Espagne. On a l'impression, tu nous disais qu'ils n'étaient pas encore, ils n'avaient pas complètement basculé. Pourtant, ce match-là, c'est presque le match le plus important de l'Allemagne depuis la finale 2014. Parce qu'en 2018, ça a été une vraie surprise, certes, mais il y avait peut-être la théorie de l'accident. Si d'aventure l'Allemagne venait encore être éliminée en 2022, ce serait une autre musique.
Oui, à tel point qu'on voit fleurir par-ci par-là sur les réseaux des personnes plus ou moins influentes, mais qu'on peut écouter, qui disent ce matin, ah, est-ce qu'on n'est pas déclassé en fait ? Est-ce que l'Allemagne ne se considère pas à mauvais titre comme une équipe encore de pointe alors qu'elle fait partie de, entre guillemets, une deuxième division des nations ? C'est une question qui est posée et évidemment, s'il y a une forte réaction contre l'Espagne, s'il devait y avoir une victoire contre l'Espagne, ça balayerait en grande partie cette théorie. Schweinsteiger était critique. Schweinsteiger à la télévision, consultant pour la télévision publique, était aussi donné aussi un motif d'espoir quand même, parce que l'Allemagne a des arguments bien sûr pour basculer dans du bon côté contre l'Espagne. Il est évident qu'il faudra gagner parce qu'un match nul voudrait dire qu'on n'a plus son destin du tout entre les mains pour le dernier match contre le Costa Rica. Donc il faudra gagner. Il y aura plus d'espace, il n'y aura pas une équipe recroquevillée, mais on se souvient aussi, Cyril, et ça fait peur forcément aux Allemands parce qu'ils ont la mémoire, la culture du football, on se souvient aussi d'un 0-6 à la fin de l'ère Joachim Löw contre l'Espagne, c'était en 2020 de mémoire, en fin d'année 2020, et pour l'instant les pronostics sont plutôt négatifs. On va voir un peu comment ça va évoluer dans les prochains jours. La presse est très critique vis-à-vis de son équipe aujourd'hui, ça c'est une certitude et j'insiste particulièrement sur le milieu de terrain et la défense.
Est-ce que culturellement, les fans de football, on évoquera juste après la société allemande en général, mais sur les fans de football qui suivent cette Coupe du Monde, est-ce qu'ils se retrouvent dans cette équipe allemande ? On a parlé voilà, de Musiala, de Gnabry, qui sont des joueurs très modernes, mais qui n'ont pas forcément les mêmes attributs que leur... Bah voilà, je pense à un Schweinsteiger comparé à un Gundogan. Schweinsteiger, ça prenait des frappes de 30 mètres. On n'a quasiment pas vu ça face au Japon, et on voit moins en moins ça en Allemagne. Est-ce que cet aspect culturel et ce changement culturel, il est accepté à l'heure où y a moins de résultats.
Je vais parler simple. On ne réclame pas forcément des bourrins, entre guillemets, vous me passez l'expression. Ouais. On réclame des gagneurs. Okay. Et donc, on va réclamer des joueurs qui peuvent être décisifs à tous les postes. Par exemple, Ginter, qui est très bon avec Fribourg. Et on voit commencer à fleurir des compositions d'équipe possibles et souhaitées par le public sur les réseaux par rapport au match contre l'Espagne. Et on réclame un Ginter, par exemple, en défense. Okay. Et parce qu'il a beau être discret, il a beau être très poli, c'est un gagneur. Et en attaque, de la même façon, on va réclamer un Leroy Sané parce qu'il a été décisif ces derniers temps avec le Bayern. On réclame des gagneurs. Souvenez-vous, Oliver Kahn, au moment de la Coupe du Monde 2018, qui se lamentait parce qu'il n'y avait plus de gagneurs dans l'équipe. Il n'y avait plus ces joueurs qui, soit qui vont rameuter les troupes, soit qui vont marquer le but décisif. Ouais. Donc on réclame ces joueurs-là. Sont-ils présents dans l'effectif ? Au-delà des magnifiques joueurs de ballon que sont ceux que tu as cités comme Musiala, la question mérite d'être posée. L'Espagne va évidemment donner une forme de réponse. On demande à ceux qui étaient sur le terrain d'en faire plus. Gundogan, on en veut plus. Kimmich, on en veut plus, parce qu'il réclame d'être le patron de cette équipe-là. Il faut qu'il montre qu'il peut en faire plus. Ouais. Et on réclame aussi de la part de l'ensemble de l'équipe davantage d'une mentalité encore plus forte, celle que Hansi Flick a réclamée pour cette Coupe du Monde, qu'on a vue en partie hier, mais qui s'est éteinte aussi au fil du match contre le Japon. Ça fait beaucoup. Mentalité plus capacité à marquer les buts, plus capacité à défendre bien contre l'Espagne, ça fait quand même un sacré défi avant dimanche.
Dernier petit mot, et on est obligé d'évoquer ce sujet, évidemment, David, avec toi, c'est tout ce qui se passe en dehors du terrain qui fait aussi beaucoup parler en Allemagne, ce brassard One Love, cette pause avec la main devant la bouche pour dénoncer la censure de la FIFA. Tu nous disais que certains reprochaient peut-être à l'Allemagne de se perdre un petit peu dans ces combats-là. On a vu aussi que l'opinion publique était moins présente, ou en tout cas moins devant son écran pour le premier match des Allemands. Est-ce que c'est un mouvement de fond qui est amené à faire de l'Allemagne presque le concurrent numéro un dans la lutte contre la FIFA avec le Danemark potentiellement ?
Complètement, c'est un mouvement de fond. Il faut ajouter à ce tableau la présence de la ministre de l'Intérieur, oui, qui est également ministre des Sports en tribune. Vous l'avez vu avec un brassard symbolique. Les Allemands sont fiers de cela, sont fiers de porter ce message, surtout depuis l'équipe multiculti, comme on l'appelait en 2010, 2012, 2014. Qui compose cet effectif et qui porte effectivement un message de diversité, Vielfalt, on dit en allemand. Et c'est aujourd'hui, on a l'impression que c'est le message principal avant même la réussite sportive. Les joueurs disent que ça ne les pollue pas au moment d'entrer sur le terrain. On peut imaginer malgré tout que tous ces messages qu'on souhaite porter, par moment, pèsent peut-être un peu lourd sur les épaules dans le contexte de cette Coupe du Monde. Oui, en tout cas, l'Allemagne du football est fière de ces gestes-là, aussi symboliques et aussi, comment dire, parfois secondaires puissent-ils paraître. Les Allemands sont très heureux de porter ce message et ça, c'est généralisé.
Eh ben merci beaucoup David. Rendez-vous dimanche donc pour ce choc Allemagne-Espagne. Et ça tombe bien, on va parler tout de suite de l'Espagne avec Anna Caro. Et on enchaîne parce que c'est comme ça dans le Tour du Monde, on passe d'un pays à l'autre. On parlait des déboires de l'Allemagne. On va parler donc du sourire éclatant de l'Espagne après son entrée en lice tonitruante, cette victoire 7-0. On accueille Anna Caro, spécialiste du football espagnol. Anna, j'imagine que ce matin, la tonalité dans les médias espagnols, elle est plutôt très positive.
Elle est très 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 positive. Il y a quand même une petite teinte de sarcasme du côté de la presse madrilène parce qu'on sait combien ils ont critiqué Luis Enrique, combien ils ont critiqué ses choix dans la liste avant le mondial, notamment de prendre Ansu Fati, Ferran Torres, etc. Aujourd'hui, ça marche. Donc, il y a certains éditorialistes qui ont un peu ça en travers de la gorge.
Qui
Mais au
seront les
final.
premiers à être là si ça se passe mal en plus,
Ah,
c'est ça?
exactement.
Ouais.
Mais là, pour l'instant, oui. Surtout du côté de la presse catalane, on est très, très fiers de voir une sélection teintée au Blaugrana avec Luis Enrique en chef de file s'imposer d'une telle façon.
Alors, on va parler longuement de Luis Enrique, si tu veux bien, parce que c'est quand même finalement le symbole de cette équipe-là. Il n'y a pas de star monstrueuse qui domine les autres. C'est lui qui incarne cette Roja et il joue toujours son personnage très clivant. Avec les journalistes, ça s'est toujours mal passé. Il les a toujours un petit peu reniés ou en tout cas, il a eu du mal à travailler avec eux. Il a même lancé pendant ce mondial des live Twitch pour faire presque un carnet de bord. J'imagine que tu en as regardé certains.
Oui.
Qu'est-ce que ça donne et pourquoi ce choix de Luis Enrique d'aller sur Twitch? Est-ce que c'est juste pour s'affranchir de cette presse qu'il a du mal à convaincre et avec laquelle il a du mal à vivre, on a envie de dire?
Ah oui, c'est très clairement pour faire un contre-pied à la presse. À chaque conférence de presse, globalement, il y a toujours quelques questions où ça se passe mal, où il a tendance à s'énerver. Là, au moins, il donne sa version des faits. Bon, on n'apprend pas énormément de choses hein, dans les live Twitch parce qu'on sait que, enfin, il a encore un peu de mal avec
Ouais.
le système de Twitch, avec lire les commentaires, répondre aux questions, etc. Mais au final, ça donne un format très sympa où justement, ouais, on a un carnet de bord. Il donne des nouvelles des joueurs, il explique pourquoi il a pris tel joueur, des choses qu'il fait pas forcément en conférence de
Ouais.
presse, justement parce qu'il a un peu cette haine envers les journalistes. Là, il a un peu moins de réticence à expliquer ses choix, etc. Et puis, il a quand même fédéré une bonne communauté autour de lui. Souvent, on a ceux qui regardent le stream qui disent ouais, Luis Padrique pour
Tout
Padré.
à
Pour,
fait.
le... Donc, Luis Enrique, en plus, au-delà d'être, on le voit au sein de la sélection, un peu le père justement de tous les joueurs parce qu'ils sont très très jeunes. Hein, il y a énormément de joueurs qui sont nés avant les années 2000. C'est aussi un peu ça, c'est un peu le père qui fédère autour d'une certaine communauté, mais qui du coup évidemment est détesté d'une autre partie de l'Espagne.
Alors justement, on parlait de cette équipe Blaugrana, la teinte Blaugrana. Ce qu'il a réussi, alors ce n'était que le Costa Rica,
Oui,
évidemment, mais on
oui.
a vu quand même des séquences ahurissantes de facilité, de précision technique qui nous ont rappelé les plus belles heures de la Roja. J'imagine que ça aussi s'est mis en avant dans son travail et c'est la patte de Luis Enrique.
Oui, et en fait, finalement, ce qu'on voit là au Mondial, c'est un travail de longue haleine. Parce que si on reprend toutes les listes depuis 1 an et demi, 2 ans, il n'y a pas grand-chose qui a bougé.
Ouais.
Si des joueurs ne sont plus là, ils sont remplacés par des joueurs qui ont plus ou moins le même profil. Et en fait, on se rend compte que Luis Enrique, il organise sa sélection un peu plus comme un club que comme une sélection. C'est-à-dire que là où, par exemple, on va avoir le pragmatisme de Didier Deschamps qui va se dire, bon, on n'a plus trop de latéraux en bonne forme, donc on va repasser, ou de pistons, du coup,
Ouais.
on va repasser à 4 derrière. Lui, Luis Enrique, ça fait 2 ans, 3 ans et même plus, puisque du coup, il a été remplacé sur un laps de temps, mais
Ouais.
qui joue en 4-3-3, qui joue avec les mêmes têtes. Il a toujours fait confiance à Unai Simon, et même quand il était dans un moment pas forcément facile, là, pareil, on voit que Jordi Alba est là, qui performe, alors qu'il ne joue plus avec le Barça. Donc en fait, il a vraiment créé une équipe pour jouer presque comme ce qu'il pourrait faire au Barça, finalement, quand on voit les profils qui sont retenus au niveau technique, etc., possession de jeu aussi.
Ouais.
Mais ça marche parce que c'est une équipe qui se connaît par cœur. On l'a vu là, les automatismes, c'est incroyable. je pense qu'il y a aussi eu cette très très bonne préparation de sa part, de se dire là on a un mondial, on va avoir que 10 jours pour préparer ce mondial, il faut que les joueurs se connaissent. Ouais. On voit par exemple en France que la charnière centrale elle a encore du mal avec les automatismes, là ils se connaissent par cœur. Ouais. Ok, là c'était Rodri qui jouait à côté de Laporte, mais Laporte ça fait un an et demi qu'il est installé là derrière, donc en fait on a une équipe qui tourne comme si elle avait joué ensemble depuis des années, et c'est un petit peu le cas quand même.
Alors on se souvient que Luis Enrique il y a quelques mois avait tweeté un espèce de petit tableau Excel pour rappeler les résultats récents de l'Espagne. J'imagine que là encore, après cette démonstration de force, on connaît la tendance de la presse espagnole à s'enflammer un petit peu. On voit cette Roja aller très très haut et même d'ores et déjà éliminer quasiment l'Allemagne dimanche lors du prochain match.
Alors ça dépend là aussi de quelle presse on prend, parce que justement ceux qui étaient assez défavorables à Luis Enrique et qui franchement n'y sont pas allés de main morte rappellent effectivement que ce n'était que le Costa Rica. Ouais. On a vu hier que c'était quand même pas très fort. Donc, il y a toujours il calme un peu le jeu de ce côté-là de la presse. Alors, évidemment, si on prend du côté de la presse catalane, c'est démonstration de force, ouais. La Roja sur le toit du monde, etc. Après le premier match. Donc, il y a cette effervescence. Non, c'est sûr.
Est-ce que il y a un joueur peut-être, alors on disait que ça manquait un petit peu de star, peut-être de ce joueur à même d'amener l'Espagne tout en haut. C'est à la fois sa force et peut-être sa faiblesse. Si demain, Gavi se blesse ou si Busquets se blesse, est-ce que cette mécanique serait la même? Est-ce que tout le monde est aussi interchangeable que ça finalement? De l'extérieur, on a cette impression-là, mais ce n'est pas forcément le cas, j'imagine.
Dans le milieu de terrain, c'est vrai qu'on a quand même des profils qui sont vraiment uniques. Surtout que du coup, les trois ont l'habitude de jouer en club ensemble, donc ils se connaissent par cœur. Par exemple, si Rodri a été mis défenseur central, c'est parce que Busquets, on ne peut pas le bouger en fait, de sa place. Ouais. J'ai du mal à croire que si par exemple Busquets se blesse, Rodri puisse lui succéder d'une telle façon. Pareil pour Koke, etc. Ouais. On a vu à chaque fois que quand Koke, par exemple, joue en 6 à la place de Busquets, c'était beaucoup plus compliqué. Donc oui, il y a quand même ce milieu de terrain qui est qui est difficile à bouger. Pour le reste, ça va. Si on prend le reste de l'équipe, c'est assez homogène. Pareil, Ansu Fati, etc. On a vu en match amical qu'il était là, il répondait présent. De ce côté-là, non. Mais si on prend justement Rodri, en conférence de presse avant le match là contre le Costa Rica, il a dit « Nous, on n'a pas de grands joueurs, on n'a pas de stars, etc. Mais on a la meilleure équipe. » Et en fait, ça représente très bien cette Roja. Il y avait eu la peur quand même avant le début du Mondial en disant « Ouais, ils n'ont pas de grands attaquants. Morata, c'est pas forcément terrible. » Hier, il n'était même pas titulaire.
Ouais, c'est vrai.
Et finalement, il y a eu quand même 7 buts. Non, un but de Morata quand même, mais 7 buts, donc en fait ça montre que on n'est pas obligé de rester dans le schéma classique. Le fait que les buts puissent venir de n'importe où, ça crée aussi un danger supplémentaire. Après, est-ce que ça suffira à passer si, par exemple, si on a un vrai bloc bas qui défend bien, très compact, etc., est-ce que ça suffira?
C'est une autre question.
On verra bien.
Et on suivra évidemment cette Roja tout au long du mondial avec Anna. On devrait les retrouver en 8e de finale. Ce serait une grosse surprise.
Ils
sont bien partis. Nous, on va enchaîner ce tour du monde et on va parler désormais de la Belgique. Évidemment, dans Tour du Monde, impossible de ne pas évoquer nos voisins belges qui ont démarré leur compétition avec une victoire précieuse mais très très difficile face au Canada. On accueille Sacha Tavolieri, notre correspondant en Belgique. Sacha, j'imagine que c'est plus du soulagement qui prédomine aujourd'hui en Belgique après cette victoire étriquée face au Canada.
Salut Cyril, oui bien sûr, c'est une véritable... un ouf de soulagement global parce qu'il y a eu tellement de points négatifs que quelque part il serait beaucoup trop difficile à les compter sur les doigts d'une main plutôt que dire les choses positives qui ont été. Bien sûr, la Belgique retient globalement la faiblesse défensive de cette Belgique, la façon dont ils se sont aussi fait marcher dessus en première période par les Canadiens qui avaient très très bien préparé leur coup, et surtout le manque de créativité dans la construction du jeu des Belges.
Alors, ça fait depuis plusieurs mois maintenant qu'il y a ce refrain qui grandit en Belgique sur la génération dorée qui a laissé peut-être passer sa chance. De ce qu'on a vu face au Canada, c'est pas très rassurant. Est-ce que ces Belges-là sont en capacité de faire malgré tout un bon mondial à tes yeux et peut-être de ce qui se dit en Belgique. Est-ce que on se dit si c'est une demi-finale, c'est déjà très bien, ou qu'on vise encore la victoire finale comme c'était le cas en 2018?
Non, ça, franchement, il faut être très clair avec tous les observateurs français et même à l'international qui suivent ton émission. Il est évident que pour le moment, la Belgique n'est pas favorite. Elle n'est pas construite comme favorite et il ne faut vraiment pas la voir comme telle. Ouais. Aujourd'hui, la Belgique est un outsider tout au plus de cette compétition au Qatar. Et donc, il faut remettre un petit peu les choses aussi au milieu de je dirais, au milieu de leur contexte. Ouais. On est en transition dans un chemin entre l'ancienne et la nouvelle génération. Ça, il faut vraiment en être conscient. Les nouveaux joueurs, bien sûr, Amadou Onana de Everton, vous avez vu du côté du LOSC. Absolument. Arthur Théâtre du côté du Stade Rennais, qui est très intéressant, qui n'est pas titulaire pour le moment, en tout cas pas aligné par Roberto Martinez, qui est également intéressant. Wout Faas, bien sûr, du côté de Reims, vous l'avez vu, il fait aujourd'hui les beaux jours de Leicester. Ce sont des joueurs qui doivent montrer aussi ce dont ils sont capables et monter en puissance. Mais pour le moment, ils sont toujours barrés par les vieux grands-pères qui jouent leur dernière compétition. Hein. Toby Alderweireld, le défenseur central aujourd'hui de l'Antwerp, passé par l'Ajax et Tottenham, que tu connais bien, vit sa dernière compétition, il l'a annoncé. On sent aussi que Jan Vertonghen, de toute façon, même s'il ne veut plus la vivre, parce qu'on a l'impression qu'il s'accroche vraiment un petit peu comme une sangsue à cette équipe nationale et il joue un peu trop de son statut. Et ça commence à énerver la plupart des gens au pays. Ça, on peut vous le donner comme info. Ça commence à être, en tout cas en Belgique, très mal perçu. Eh bien, lui, il vivra aussi sa dernière compétition. Et puis voilà, à voir un petit peu dans quelle situation se retrouvera Eden Hazard dans 2 ans à l'Euro 2024. Mais voilà, on arrive vraiment au bout du tunnel. On savait que cette génération dirait au revoir lors du Qatar 2022 au plus haut niveau. Maintenant, il faut savoir construire un résultat sur base de ça, c'est-à-dire être pragmatique, efficace, jouer de cette fameuse expérience pour aller récupérer un petit peu le sel de ce qui avait fait notre défaite face à la France en demi-finale de la Coupe du Monde en 2018 et qui avait permis forcément à la France d'aller chercher le titre par la suite, c'est-à-dire cette froideur, cette capacité de faire des différences même quand on n'est pas bon dans le jeu. Et voilà, ça nous a un petit peu réussi face au Canada. On espère voir au moins plus de maîtrise face au Maroc, même si la construction n'y est pas.
Est-ce que, alors on va parler de la défense un petit peu, parce que c'est vrai que ce qu'on a vu face au Canada était très inquiétant. Tu nous as parlé de Théâtre notamment. Est-ce qu'il y a une chance de voir Roberto Martinez changer ses hommes en cours de compétition, ou est-ce que c'est les soldats de Martinez qu'il va partir avec eux et que jusqu'au bout, il risque de mourir peut-être même avec eux?
Des hommes ont marqué des points, c'est évident. Amadou Onana a été bien sûr mis en avant dans la deuxième période face au Canada. Il pourrait bien sûr prendre la place de Youri Tielemans qui s'est complètement écroulé.
Très timide. Ouais, très timide.
Très très timide, complètement mis sous l'été noir d'ailleurs par la vitesse et la puissance d'Alphonso Davies. Il y a d'ailleurs une petite vidéo qui circule sur les réseaux où il se fait complètement mettre en joue par l'ailier du Bayern Munich. Donc très compliqué pour Youri Tielemans, qui pourrait donc perdre sa place en lieu et place de Amadou Onana. Mais pour le moment, cette histoire de statut commence à trotter dans la tête de beaucoup de personnes. Ouais. Les joueurs y compris, ça, c'est une info qu'on peut vous donner ici sur Eurosport. Les joueurs parfois se posent des questions. Voilà, ils le font savoir et ils vivent parfois aussi les choses de façon un peu bizarre. Voilà, c'est sous forme d'interrogation au minimum. Pour pas dire plus, notamment cette titularisation d'Ian Vertonghen, personne ne la comprend sportivement, personne ne la comprend aussi d'un point de vue, ne serait-ce que d'un point de vue global collectif, puisqu'il n'apporte rien en fait concrètement. Et on a l'impression qu'on est obligé de jouer avec quelqu'un qui nous déforce puisqu'il nous renforce, mais pour des raisons qui sont bien plus des raisons de statut, d'autorité, et pour ne pas que forcément cette personne-là qui ne jouerait plus commence à mettre la zizanie dans le groupe. Alors c'est bien, mais à un moment donné, même si c'est le plus capé de notre équipe nationale et c'est le joueur qui a le plus de sélections à l'heure actuelle, je pense qu'on n'est pas loin des 120, entre 120 et 130 sélections, il faut aussi mettre son ego de côté et justement faire jouer des personnes qui méritent, comme Arthur Théâtre, qui avait été très bon dans le match amical face à l'Égypte. Ouais. Il avait été performant, il avait tenu vraiment bien Mohamed Salah, même si ce n'est pas un grand Mohamed Salah qu'on avait vu dans ce match, il avait quand même fait le travail. Et puis surtout, c'est un joueur qui amène de la vitesse, de la percussion et de la personnalité. Ouais. Ce sont trois caractéristiques dont la Belgique a besoin en général et aura besoin pour aller très loin dans cette compétition.
Dernière petite question, parce que le tableau est très noir malgré la victoire. Il y a quand même un cas qui cristallise encore beaucoup de questions en Belgique, c'est évidemment Romelu Lukaku, qui ne sera pas là face au Maroc, ça c'est d'ores et déjà sûr. Est-ce que ce Romelu Lukaku, avec toute l'incertitude qui plane autour de lui, peut vraiment changer le visage de cette équipe, ou est-ce que là aussi les inquiétudes sont très nombreuses à son égard en Belgique?
Non, Romelu Lukaku est attendu non pas comme un sauveur, mais véritablement comme un homme à 50% en, qui amènerait, je dirais, à 50% en plus la qualité du niveau des Belges. Et ça, c'est important à dire. Il n'est pas vu comme un élément indispensable que pourrait être, par exemple, Kevin De Bruyne, mais il est vu vraiment comme le joueur qui va pouvoir permettre à Roberto Martinez de réinstaller son système de domination dans la construction offensive de son équipe et qui, justement, permettra justement aux joueurs qui étaient un petit peu perdus par les appels un petit peu bizarres, parce que Michy Batshuayi est un joueur un peu hybride, un peu impulsif, un peu instinctif, mais on n'arrive pas vraiment bien au niveau tactique, en tout cas, c'est très compliqué de jouer avec lui en termes de lisibilité. Ouais. Et donc Romelu Lukaku, lui, forcément, il a beaucoup plus de coffre et d'épaisseur dans ce registre-là, et va porter vraiment beaucoup plus de cohérence et aussi peut-être un petit peu plus de repères à une équipe qui en manque grandement.
Et ben voilà, on suivra évidemment l'aventure des Diables Rouges dans ce mondial. Merci beaucoup, Sacha. Et nous, on va tourner la page européenne et on va s'envoler pour l'Amérique latine. Et on termine ce tour du monde évidemment par un passage obligatoire en Amérique latine. On rejoint Thomas Goubin, notre spécialiste du football sud-américain. Salut Thomas. On te rejoint juste dans la foulée de la victoire du Brésil face à la Serbie, une victoire 2-0 avec un but exceptionnel. On vous conseille d'aller le voir si vous ne l'avez pas vu, de Richarlison. Peut-être un petit mot, qu'est-ce que tu as pensé de cette entrée en lice des grands favoris dans ce mondial?
Salut Cyril, je crois que comme tout le monde, j'ai vu que c'était assez poussif, surtout en première période. Mais dès qu'ils ont accéléré, quand même, on a vu tout le potentiel, notamment offensif de cette équipe qui était un peu coupée en deux aujourd'hui.
Ouais.
Et je crois aussi ce qu'il faut retenir, c'est que le Brésil faisait face à un adversaire, la Serbie, qui était peut-être par exemple plus redoutable que l'adversaire de l'équipe de France, l'Australie. Donc ce 2-0 avec une équipe du Brésil qui a eu énormément d'occasions en fin de match et qu'on a concédé très peu, je crois que c'est une bonne base pour débuter à travailler et pour que Tite, le sélectionneur, commence à ajuster certaines choses, parce qu'en termes de fonctionnement collectif, ça a quand même pas été très convaincant ce soir.
Ouais. Alors, il y a une grosse inquiétude, évidemment, c'est la sortie de Neymar. À cette heure, on n'a pas beaucoup plus d'infos, donc évidemment, rendez-vous sur eurosport.fr pour suivre le développement de l'affaire et savoir si Neymar manquera d'éventuels matchs de la Seleção. Thomas, on vient surtout te voir parce que cette semaine, il y a eu un choc immense avec presque une déflagration pour l'Argentine et cette défaite face à l'Arabie Saoudite en ouverture. Déjà, à quelques jours de le deuxième match décisif face au Mexique, c'est quoi l'état d'esprit en Argentine et dans la presse argentine ces dernières heures?
Évidemment, il y a l'espoir que l'équipe rebondisse, mais il y a quand même une chape de plomb qui est tombée sur le pays.
Ouais.
L'Argentine est arrivée, peut-être pas dans la peau d'un favori, mais on pense avoir ses chances pour enfin gagner une Coupe du Monde, sa troisième Coupe du Monde. Ouais, c'est une équipe invaincue depuis 35 matchs quand même, qui vient de gagner la Copa América, donc qui s'était libéré mentalement, vu que c'était son premier titre depuis 1993. Et tout le monde attendait, pas forcément une démonstration face à l'Arabie Saoudite, mais forcément une victoire, une mise en route, pour ensuite se projeter sereinement sur les prochains matchs. Là, la sérénité, elle a disparu, ça c'est évident. Les gens essayent aussi de se raccrocher à Messi, quoi, le totem un peu de cette équipe.
Ouais.
Et puis, on commence à s'interroger aussi sur les choix de Scaloni, qui était un sélectionneur presque adulé avant le début de la Coupe du Monde, c'est-à-dire avant il y a seulement quelques jours.
Alors justement, les choix de Scaloni, on en parle beaucoup dans la presse, notamment Olé, ce jeudi, qui évoque les possibles changements, avec peut-être l'incorporation de Fernandez au milieu et peut-être le basculement de Messi à droite. Est-ce que c'est vraiment une affaire d'homme, ou est-ce qu'il y a aussi peut-être quelque chose de plus caractéristiques de cette équipe d'Argentine, à savoir que certains leaders, je pense notamment à Paredes, je pense notamment à Di Maria, sont arrivés à ce mondial avec des certitudes physiques très très limitées.
Ouais, on a vu que physiquement, ils étaient clairement inférieurs aux Saoudiens. Après, je pense que c'est quand même une histoire d'hommes, mais là j'ai envie de parler pas des hommes présents, mais des hommes absents.
D'accord.
Et je pense notamment à Giovanni Lo Celso, qui n'a pas forcément laissé d'immenses souvenirs en France, mais qui s'est quand même bien retapé, notamment à Villarreal. et qui était un élément essentiel de cette Argentine. C'est-à-dire, il y avait un milieu à trois où lui faisait le lien entre les milieux défensifs et l'attaque. Et c'est quelqu'un aussi qui combinait très bien avec Lionel Messi, donc qui permettait au bloc d'avancer par petites touches. Et là, ce lion qui a souvent été justement le côté déficient de l'Argentine de l'ère Messi, c'est-à-dire on a souvent vu une équipe coupée en deux.
Ouais.
Et là, on a retrouvé cette Argentine coupée en deux. C'est ça qui est préoccupant. Et visiblement, tu parlais de la possibilité qu'Enzo Fernandez soit aligné demain. Mais là, la tendance, en fait, serait de rester sur le même milieu de terrain D'accord, que celui aligné contre l'Arabie Saoudite.
Alors,
le seul changement, ce serait derrière, avec oui. Romero, qui visiblement n'est pas à 100%, et qui serait remplacé par le...
Lisandro Martinez, évidemment.
Lisandro Martinez, exactement.
Justement, sur, on se souvient de la Coupe du Monde de 2018 de l'Argentine, où c'était un petit peu un grand n'importe quoi, si on schématisait avec Jorge Sampaoli, qui ne contrôlait pas vraiment ce vestiaire. On ne comprenait pas vraiment où l'Argentine allait. C'est notamment pour cette raison qu'en 2022, on voyait l'Argentine parmi les favorites. Et finalement, face à l'Arabie Saoudite, pendant cette seconde période, on a retrouvé les mêmes mots. Est-ce que ça aussi, ça inquiète au pays ou on a confiance dans tout ce qu'a bâti Scaloni depuis plusieurs mois et on ne cède pas encore à la panique?
Alors, il y a un sondage qui a été fait par Olé et ouais. Il y avait à peu près 35% des Argentins qui craignaient une élimination au premier tour, tout simplement. Donc, voilà, majoritairement, quand même, les Argentins ouais. y croient encore. Contre le Mexique, ça va être un duel évidemment vital, mais l'Argentine a un très bon bilan. En quelque sorte, l'Argentine est la bête noire du Mexique. Ils l'ont sorti deux fois dernièrement au Mondial, donc en 2006 et en 2010. Et très souvent, finalement, le style mexicain fonctionne assez bien avec l'Argentin. Le Mexicain est moins calculateur. L'Argentin arrive souvent à profiter des petites failles mexicaines. Voilà, la population reste, les observateurs, plutôt quand même optimistes. Mais il y a du scepticisme. Clairement, on est passé du tout au tout en quelques jours.
Évidemment, un petit mot sur Lionel Messi. Est-ce qu'on envisage déjà le scénario du pire avec un départ à la tête basse de sa dernière Coupe du Monde, éliminé en poule? Est-ce que c'est quelque chose qui est évoqué aussi ou on est, encore une fois, beaucoup plus sur un état d'esprit conquérant et combattant avant ce dernier match?
Non, on est quand même plutôt sur un état d'esprit conquérant. Okay. On ne parle pas encore de la sortie de Lionel Messi.
Et alors justement, tu parlais du Mexique, on peut en parler aussi un petit peu. Peut-être un Mexique moins flamboyant que par les années passées. Est-ce que c'est une équipe du Mexique qui va réussir à passer en huitième de finale ou est-ce qu'elle est beaucoup plus limitée que ses versions précédentes?
Pour moi, c'est l'équipe la plus limitée du XXIe siècle.
Ah ouais, carrément, d'accord.
Pour le Mexique. En termes de fonctionnement collectif qu'ils ont fait contre la Pologne, j'ai trouvé ça assez convaincant.
Ouais.
Mais il manquait des joueurs devant comme Carlos Vela, comme Chicharito. Et à la place, on a des joueurs qui jouent dans le championnat mexicain comme Henry Martin ou comme Alexis Vega et qui ont été assez déficients. Et il n'y a pas vraiment de réserve sur le banc. Ce qui est évoqué notamment comme possibilité, c'est que Rogelio Funes Mori, qui est un Argentin naturalisé ouais. mexicain de 31 ans, qui joue à Monterrey, pourrait tenir la tête de l'attaque, puisque Raúl Jiménez, qui, voilà, en termes de ouais. qualité, peut-être le meilleur joueur mexicain actuellement, mais en fait, il ne s'est jamais remis vraiment de sa commotion cérébrale dont il a souffert il y a deux ans en première ligue avec les Wolves.
Dernier petit mot peut-être sur l'Équateur qui rejoue... je suis perdu dans les jours avec cette Coupe du Monde. On est jeudi, voilà, qui rejoue dès vendredi. On les a vus très séduisants, mais c'était face au Qatar. C'est un petit peu compliqué à situer ce Qatar-là. Qu'est-ce qu'il faut attendre peut-être de l'Équateur dans cette Coupe du Monde? Est-ce que ça peut être une très bonne surprise comme l'avait été le Costa Rica à l'époque?
Ouais, je pense qu'il faut attendre une équipe sans complexe. Okay. C'est une équipe très jeune, très conquérante, qui en plus a un grand buteur comme Ener Valencia, ouais. qui a marqué les deux buts dans le match inaugural, même s'il y a un doute justement sur sa santé, on ne sait pas encore s'il sera titulaire demain. Et c'est une équipe oui, qui a l'ambition, enfin l'entraîneur a dit qu'il voulait manger le foie de tous ses adversaires, donc voilà, c'est dit de manière assez virulente, mais ça, comment dire, ça transmet vraiment l'état d'esprit de cette équipe, qui a beaucoup de talent, très jeune, ce qui peut être son défaut aussi, c'est-à-dire ouais. Ce manque d'expérience.
Et ben voilà, vous savez tout sur le panorama sud-américain dans cette Coupe du Monde. Merci beaucoup Thomas. On se retrouvera tout au long de cette compétition avec Thomas, ne vous inquiétez pas. On vous donne rendez-vous donc lundi prochain, après avoir vu de nouveau toutes les équipes jouer dans cette Coupe du Monde. D'ici là, portez-vous bien et suivez la Coupe du Monde.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
Late bloomers tend to have more curiosity. They tend to have more resilience.
There are stories and mythology that this country has woven around black men.
This is the cavalry, right? These are the leaders, the hometown heroes and local leaders that we are.
It's a survival mechanism to just be like worried of police.
What if everything we've been taught is just all wrong?
What's worth more than this fear right now?
And that rising after failure is part of the glory of being a human being.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.